du président Jovenel Moïse.
Au micro, Idrissa Sidoudia, bonjour. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a téléphoné hier au président tunisien Kais Saied et l'a appelé à maintenir un dialogue ouvert avec tous les acteurs politiques et le peuple tunisien. Monsieur Blinken a également promis un soutien à l'économie tunisienne et à la lutte contre le Covid-19. Le président Kais Saied a suspendu la veille les travaux du Parlement, s'est octroyé le pouvoir exécutif et a limogé Hichem Mechichi qui, lui, s'est dit prêt hier à céder le pouvoir au futur Premier ministre désigné. Nous reviendrons plus en détail sur la Tunisie avec Jacques Aristide et Nani Talani. Le secrétaire d'État adjoint américain par intérim, chargé du Proche-Orient, Joy Hood, a eu dimanche et lundi à Alger des entretiens sur la sécurité régionale, dont les conflits au Sahel, en Libye et au Sahara occidental, selon un communiqué algérien. Il s'est entretenu avec le nouveau ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra. Au Burkina Faso, un soldat burkinabé et plusieurs dizaines de djihadistes ont été tués la semaine dernière lors d'une opération de l'armée visant à sécuriser la zone de Madjouari dans l'est du pays, selon l'état-major, dans un communiqué diffusé lundi soir. Au Niger, le gouvernement a annoncé hier soir que 14 personnes ont été tuées dimanche dans une attaque à Bani Bangou, près de la frontière avec le Mali, une région où les civils sont régulièrement la cible de djihadistes présumés. Dans quelques instants, la rencontre Bagbo-Ouattara de ce mardi en Côte d'Ivoire et le Covid au Sénégal. En attendant, la Guinée équatoriale a annoncé hier la fermeture de son ambassade à Londres après des sanctions considérées par Malabo comme illégales imposées pour des faits de corruption par le Royaume-Uni contre Théodorin Obiang, fils du président Théodoro Obiang Nguema. Les cas de COVID-19 ont connu une explosion spectaculaire et inédite à Maurice, île de l'océan Indien, relativement épargnée par la pandémie. Mais ces derniers sont essentiellement asymptomatiques, affirment les autorités. La Banque mondiale et le système COVAX ont mis en place un nouveau mécanisme de financement qui devrait permettre de vacciner 250 millions de personnes dans les pays pauvres d'ici 2022, selon un communiqué commun publié ce lundi. La ville de New York et l'État de Californie exigeront désormais de leurs employés qu'ils se fassent vacciner contre le COVID-19 ou qu'ils se soumettent à des tests réguliers pour tenter d'enrayer la progression du variant Delta. Et le département américain des anciens combattants a exigé hier de son personnel de santé la vaccination, devenant ainsi la première agence fédérale à faire une telle demande. Alors que le variant Delta gagne du terrain aux États-Unis, la hausse la plus spectaculaire des cas est enregistrée dans les États où la couverture vaccinale est la plus faible, comme la Floride, le Texas et le Missouri, qui enregistrent à eux trois 40% des cas. Dans ce contexte, la Maison-Blanche a fait savoir ce lundi maintenir à ce stade les restrictions aux voyages internationaux, en dépit des demandes de réciprocité émanant notamment de l'Union européenne. Le président américain Joe Biden a annoncé hier, aux côtés du premier ministre irakien Mustafa al-Kazimi, une nouvelle phase de la présence militaire américaine en Irak, avec une fin annoncée de toute mission de combat qui ne remet pas en cause la présence de troupes dans le pays. Des policiers traumatisés par l'assaut du 6 janvier sur le Capitole, ici à Washington, témoigne ce mardi devant les élus du Congrès à l'ouverture des travaux d'une commission d'enquête qui suscite de vives controverses dans la capitale fédérale. La police nationale haïtienne a annoncé avoir procédé ce lundi à l'arrestation de Jean Laguel Civil, le coordonnateur de la sécurité du président Jovenel Moïse, dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de ce dernier le 7 juillet. Il est soupçonné d'implication dans le complot. La Corée du Sud et la Corée du Nord ont remis en service ce mardi la ligne téléphonique d'urgence les reliant.
La suite de nos informations. Les États-Unis se disent préoccupés par la crise politique qui secoue la Tunisie. Le président Kais Saied a limogé d'autres membres du gouvernement hier, au lendemain de sa décision de suspendre les activités du Parlement pour 30 jours et de démettre le Premier ministre. Jacques Aristide fait le point.
Le chef de l'État tunisien s'est octroyé le pouvoir exécutif après des manifestations dimanche dans plusieurs villes contre Ennahda, principal parti au Parlement, et contre la gestion de la pandémie de coronavirus par le gouvernement de Hichem Mechichi. Le président Kais Saied indique qu'il compte désigner un nouveau Premier ministre et procéder à des changements au sein du gouvernement. Hier, il a limogé le ministre de la Défense, Ibrahim Bartagi, et la porte-parole du gouvernement, Hafna Ben Neslimane, également ministre de la fonction publique et ministre de la justice par intérim. Ennahda a dénoncé un coup d'État contre la révolution et contre la constitution. En revanche, l'Union générale des travailleurs tunisiens a implicitement soutenu les décisions du président Saied, estimant qu'elles étaient conformes à la constitution, tout en appelant à la poursuite du processus démocratique. Les États-Unis appellent au respect des principes démocratiques dans le pays, a dit hier la porte-parole de la Maison-Blanche. Interrogé lors d'un point de presse pour savoir si Washington estimait être en présence d'un coup d'État, Jen Psaki a souligné qu'il s'agissait là d'une définition juridique et que cette question était examinée par le département d'État. La France dit souhaiter le respect de l'État de droit et le retour, dans les meilleurs délais, à un fonctionnement normal des institutions qui doivent pouvoir se concentrer sur la réponse à la crise sanitaire, économique et sociale. L'Union européenne, elle, a appelé au respect de la Constitution et de l'État de droit et à éviter le recours à la violence.
Au Sénégal, les hôpitaux de Dakar, la capitale, sont proches de la saturation à cause d'un afflux de malades du Covid-19. Le personnel médical est épuisé, selon les responsables du ministère de la Santé. Le point avec Rosine Mounézéro.
Nous sommes débordés et proches de la saturation avec quasiment 99% de taux d'occupation à Dakar. Avec 602 lits dans les hôpitaux, a expliqué le directeur national des établissements publics de santé, Ousmane Dia. C'est difficile de suivre si on reçoit 600 à 700 malades par jour pour des consultations, a-t-il précisé. Selon M. Dia, la pression est moindre dans les régions, avec un taux d'occupation des lits de 45%. Le président Macky Sall a menacé de fermer à nouveau les frontières et de restreindre les déplacements internes si la situation l'exige. Il avait levé les restrictions sanitaires après des émeutes en mars dernier. Le Sénégal a recensé plus de 57 000 contaminations pour 1286 décès, des chiffres relativement faibles par rapport à d'autres régions du monde. Mais les contaminations sont passées de quelques dizaines par jour à la fin du mois de juin à entre 700 et 1700 un mois plus tard.
Près de 60 migrants cherchant à joindre l'Europe, dont des femmes et des enfants, sont morts noyés dans un naufrage au large de la Libye. C'est un nouveau drame de l'immigration clandestine en Méditerranée qui est rapporté par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Le point avec Michel Joseph.
Selon l'OIM, au moins 57 migrants sont noyés dans un naufrage au large de Khomz, à 120 km à l'ouest de Tripoli. Les survivants ont déclaré que 20 femmes et 2 enfants font partie de ceux qui ont perdu la vie, ajoute l'OIM sur son compte Twitter. L'agence onusienne ne précise pas leur nationalité, mais des images qu'elle a diffusées montrent des agents humanitaires distribuant eau et nourriture aux survivants visiblement épuisés, semblant tous originaires de l'Afrique subsaharienne. La Libye est un important point de passage pour des dizaines de milliers de migrants qui cherchent chaque année à gagner l'Europe par les côtes italiennes distantes de quelques 300 kilomètres. Le nombre de migrants décédés en mer dans cette traversée périlleuse a plus que doublé au premier semestre cette année. Au moins 900 personnes ont péri. Dans la même période, les gardes-côtes libyens ont rapatrié plus de 13 000 personnes, ce qui dépasse le chiffre total pour 2020, d'après le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés.
dans les sports, la couverture spéciale des Jeux Olympiques de Tokyo avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Les Jeux Olympiques de Tokyo se poursuivent avec des fortunes diverses pour les Africains. Hier, la République démocratique du Congo a récolté sa première victoire. Le Burkina Faso a failli en taekwondo. Le point avec Bagassi Koura.
Oui, le boxeur David Chama a offert à la RDC sa première victoire au JO en battant par points le Camerounais Seyin Senge 3-2. C'est une confirmation pour le Congolais qui avait battu le Camerounais lors du tour qualificatif à Dakar. Au prochain tour, David Chama fera face à l'Haïtien Darrell Valsin Jr. ce jeudi. En taekwondo, Faisal Savadogo n'a pas saisi sa seconde chance. Battu d'entrée 13-6 chez les moins de 80 kg hommes par le russe Maxim Kramtsov en huitième de finale, le Burkinabé repêché s'est de nouveau incliné face au croate Tony Kanaet 30-10. Autre échec burkinabé en judo, Lucas Diallo a été immobilisé par Cédric Bessé en 1 minute 15 secondes chez les moins de 73 kg hommes lors des 16e de finale.
Merci Bagassi. Dans les sports collectifs, les seuls représentants africains en basketball, les Nigériens chez les hommes, ont débuté par une défaite. Ils ont été défaits par l'Australie 67-84 dans le groupe B. L'équipe féminine nigériane de basketball ouvre sa campagne ce mardi contre les favorites américaines. Dans le rugby à 7, l'Afrique du Sud a battu le Kenya 14-5 et s'est aussi imposé devant l'Irlande 33-14. Le Kenya est tombé de nouveau face aux Américains 19-14. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la course cycliste pour Paul Domon? Dans le groupe d'échappée de 8 coureurs samedi, le Burkinabé a abandonné à 96 km de la ligne d'arrivée dans ses JO où il participe pour la première fois et comptait faire sensation. Dans une interview qu'il nous a accordée, Paul Domon revient sur le pourquoi de son abandon.
J'ai eu un problème mécanique avec mon dérailleur qui m'a empêché de sélectionner les vitesses. Le dépannage technique a pris un peu plus de temps que prévu et c'est ce qui a fait que j'ai perdu le contact justement avec le groupe d'échappée dans lequel je constituais. Ensuite, j'ai essayé de limiter la casse avec le retour du peloton, mais ils avaient déjà activé la poursuite de l'échappée. Donc à ce moment-là, les vitesses n'étaient toujours pas opérationnelles. Ensuite, quand le peloton m'a rattrapé, le temps que je me fasse dépanner, il y a eu un écart d'environ 2 minutes à 3 minutes. Mais puisqu'on est sur un système de championnat, de type championnat et course olympique, la décision des commissaires est stricte. Tout coureur qui est distancé du peloton d'au moins 2 minutes se voit contraint à l'abandon, puisqu'ils estiment qu'à partir de ce moment-là, les chances de réintégrer le groupe pour jouer la victoire des médailles est impossible.
Une première expérience olympique dont le cycliste burkinabé dit avoir tiré beaucoup de leçons.
Je pense que je peux en tirer du positif et ça nous a donné des enseignements quant à la préparation et au déroulement de ce genre de compétition. Voilà, ça m'a permis de me tester face aux meilleurs coureurs de la discipline qui existe en ce moment. Et ça nous a permis aussi de tirer des enseignements par rapport à la préparation. Maintenant, désormais, on saura que ce genre de compétition, il faut aborder une stratégie de préparation différente. Voilà, je pense que c'est ce qu'il faut retenir de cette expérience-là.
Paul Domon, cycliste burkinabé. L'Algérien Taoufik Makloufi ne pourra plus concourir. Le champion olympique de 1500 mètres en 2012 a déclaré forfait pour ses JO en raison d'une blessure au genou. Je me trouve contraint d'écouter mon corps et ce genou récalcitrant qui a longtemps perturbé ma préparation, tout comme le Covid-19 que j'ai contracté l'année passée, a écrit l'athlète dans un communiqué. Makloufi, 33 ans, a également été vice-champion olympique sur 800 mètres et 1500 mètres à Rio en 2016. Bonne nouvelle pour les médaillés des JO, ils pourront enlever leur masque pendant 30 secondes, le temps de faire des photos sur le podium, annonce le Comité international olympique.
L'idée est de donner à ces athlètes qui ont concouru, quand tout le monde prend du recul, la possibilité d'enlever leur masque pendant 30 secondes, de rester sur leur marche pour une photo, et je pense que tout le monde appréciera que, un, le risque est très faible, et deux, c'est tout à fait compréhensible.
Marc Adams, porte-parole du CIO. Un panneau sera mis en place près des podiums pour leur indiquer quand enlever leur masque. Jusqu'à présent, 153 personnes liées au jeu ont été testées positives. Environ 85% des athlètes sont vaccinés selon le CIO. Nous finissons avec le fait marquant de la journée d'hier qui est nippon. À 13 ans, la japonaise Momiji Nishiya est devenue la première championne olympique de l'histoire en skateboard féminin. C'est ici que se referme cette page spéciale consacrée aux Jeux olympiques.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Des heurts ont éclaté hier devant le Parlement tunisien, devant lequel l'armée a été déployée après la suspension de ses activités par le président Kais Saïd et le limogeage du Premier ministre. Il y a eu jet de bouteilles et de pierres à Tunis entre plusieurs centaines de partisans du président Saïd et d'Ennahda, le principal parti islamiste au Parlement. L'armée a été aussi déployée devant le siège de la télévision nationale, plusieurs institutions et l'avenue Habib Bourguiba, épicentre de la révolution de janvier 2011. Pour une analyse de la situation, Nanit Talani a joint hier Mourad Selima, rédacteur en chef de la plateforme The Voices. Il est basé à Tunis, la capitale tunisienne.
Le président de la République s'est octroyé la totalité du pouvoir exécutif en activant l'article 80 de la Constitution. Donc, il a décidé de geler le Parlement, de démettre le chef du gouvernement et de s'octroyer tout le pouvoir exécutif.
Est-ce qu'on peut craindre une détérioration de la situation ou bien les partis en présence vont réussir à s'entendre et à trouver un compromis?
Jusqu'à maintenant, c'est pas clair. Ceux qui avaient la présidence de l'Assemblée, c'est normal qu'ils déplorent un coup d'État. Ils disent que c'est anticonstitutionnel, que cet article 80 ne permet pas au président de faire tout ça. Donc il faudrait qu'il y ait de la communication entre ces différentes composantes de la scène politique. Il me semble que ça va aller. De toute façon, le président a décidé que ces mesures exceptionnelles durent juste 30 jours. Donc normalement, on doit trouver des compromis durant ces 30 jours.
Vous vous rappelez, à 10 ans, c'est comme ça que la révolution a commencé. Qui avait fait partir Ben Ali.
Je me rappelle, oui. Finalement, ce qui s'est passé hier, ça exprime la décision de cette population, ces scènes de liesse populaire, etc. Cette population n'a rien vu de changement positif par rapport à l'ère Ben Ali. Donc, la liesse populaire, c'est de se débarrasser de ces gens, de ces symboles du pouvoir, de ces personnes qui ont pris le pouvoir après Ben Ali et qui n'ont pas réussi à réaliser les objectifs de la révolution. Par contre, l'actuel président de la République n'a jamais été impliqué au pouvoir avant. Eux, le président du Parlement et la clique de la majorité parlementaire sont déshabitués du pouvoir depuis 2011, depuis la chute de Ben Ali. Donc du coup, puisque le président de la République est plutôt loin de ces mafias, de ces réseaux, donc les gens disent qu'on ne va pas vivre pire que ce que nous avons vécu durant cette décennie.
Toutes ces personnes qui ont leurs espoirs dessus, toutes ces personnes qui ne voient pas la matérialisation de toutes les promesses, ne risquent-elles pas de se servir de ce mouvement et puis faire une révolte populaire?
En fait, ce qui s'est passé, c'est une révolte populaire sans véritable grande démonstration, parce qu'il y a eu des manifestations de rue, il y a eu des appels à manifester pour chasser ce régime pourri. Le président de la République, il a concrétisé en quelque sorte les vœux de ces manifestants qui sont des réclamer le départ de ces pourris. C'est en quelque sorte, en effet, un redressement du processus de la révolution, oui.
Joint hier à Tunis, Mourad Selima, rédacteur en chef de la plateforme The Voices.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara reçoit ce mardi son prédécesseur et rival Laurent Gbagbo au palais présidentiel. Une rencontre très attendue par les populations ivoiriennes. Quelques réactions de citoyens ivoiriens recueillies par notre correspondante Aïcha Diarra.
C'est vrai, il y a beaucoup qui ne sont pas contents concernant ce qui s'est passé, surtout dans nous-mêmes, notre commune à Bobo. Je pense qu'arrivé à un moment donné, il faut savoir vider le cœur de la haine.
Je sais que les Ivoiriens attendent beaucoup de cette rencontre. Mais moi, connaissant ces deux hommes-là, l'hypocrisie va régner encore comme on a vu au Forum de réconciliation en 2001. Et donc là, pour moi, je n'attends pas grand-chose de cette rencontre. J'attends qu'on me surprenne.
J'estime que c'est la première chose, le premier pas que Laurent Gbagbo devait effectuer depuis son arrivée en Côte d'Ivoire, depuis son acquittement où il a regagné le pays. Maintenant, pour ce qui est de leur rencontre, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, tout le pays aspire à la paix, la tranquillité, la stabilité.
Bon, nous avons un peu peur pour cette rencontre-là. S'il n'y aura pas une discorde entre eux, notre souhait, c'est que ça se passe bien.
Ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis vraiment content qu'ils s'attendent. Je vais donner un conseil aussi aux Ivoiriens. Je dis que les paroles inutiles, entre nous, ce n'est pas bon. Après tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, je dis les deux, que ça soit pour causer, pour s'attendre vraiment que la paix règne en Côte d'Ivoire.
Je pense que ça sera une occasion pour ces deux ténors de la politique ivoirienne de démontrer et de montrer aussi leur sens de responsabilité. Surtout quand on traîne derrière soi des millions et des millions de partisans. Donc vivement, une grande responsabilité de leur part, des actions et des propos vraiment qui vont permettre au peuple ivoirien de vivre ensemble et de commencer une ère nouvelle.
En effet, il y a des moments dans la vie d'un peuple faits de crises et de tensions. Mais au-delà de toute cette conflagration, la réconciliation est une nécessité. Et nous espérons que ce processus va s'étendre à tous les acteurs politiques et civils de la Côte d'Ivoire et qu'il n'y aura pas de gap entre les paroles et les faits.
Donc les autorités se rencontrent et puis après pour des intérêts personnels, ils se font encore des histoires, tout ça pour plonger les Ivoiriens dans la tristesse. Mais notre souhait est qu'ils s'entendent et que vraiment cette rencontre-là, à l'issue de cette rencontre-là, tous les Ivoiriens soient heureux, tous les Ivoiriens soient apaisés et que tous les Ivoiriens soient satisfaits.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
En Guinée, le monde de la culture est l'un des secteurs les plus affectés par la pandémie du Covid-19, avec l'interdiction des concerts et spectacles. Les producteurs et artistes appellent à une reprise de leurs activités pour sortir de la précarité. Notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara, a rencontré certains de ces artistes.
L'attente devient longue pour One Time. Cet artiste-chanteur doit encore attendre avant de livrer son concert dédicace.
Nous sommes là en attente. Il y a des milliers de fans aujourd'hui qui veulent en fait venir me soutenir un peu partout dans le monde pour me soutenir et venir à ma dédicace. Mais aujourd'hui, les choses sont au ralenti. Mon album devrait en fait sortir depuis 2020. Au moment que Ntondi faisait le tour du monde, là, c'est à ce moment mon album devrait sortir. Après, cette Covid est venue et voilà quoi, stopper tout. On est là en attente pour pouvoir reprogrammer une nouvelle date.
À l'image de ce jeune artiste, c'est tout le secteur culturel qui est impacté par la crise sanitaire. Abdoulaye Mbaye, artiste producteur.
C'est des milliards aujourd'hui. Si je prends ne serait-ce que les concerts qui avaient été annulés, les premiers qui avaient été annulés, on a essayé de faire en sorte que d'avoir une subvention au niveau de l'État. Quand on a regardé sur à peu près une vingtaine, sur une seule période, on avait engendré une perte de, en tout cas un investissement de plus de 2 milliards, 2 milliards 600. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, si tu prends toute une année et tu prends toutes les activités à l'arrêt, ça fait quand même quelques milliards qui font vivre beaucoup de familles, beaucoup de sociétés, beaucoup de travailleurs. Aujourd'hui, c'est difficile pour nous, c'est difficile pour le secteur.
Plusieurs rendez-vous sont suspendus, d'autres annulés. Face à la crise, Alpha Baldé, acteur culturel, a décidé d'écrire une lettre au président Alpha Condé.
Une lettre ouverte adressée au patron de la République de Guinée, c'est parce que l'heure est grave. En quelque sorte, c'est une alerte pour moi. Aujourd'hui, tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que le président de la République nous permette de reprendre le travail à l'instar des autres pays de la sous-région où aujourd'hui joie et gaieté font le bonheur de la population. Et comme vous le savez, l'attente qui est synonyme d'angoisse, de déprime est devenue insupportable pour les hommes de la culture.
Les effets de la crise sanitaire due au Covid-19 se font sentir dans le secteur des arts et de la culture en Guinée. Certains acteurs disent ne pas comprendre la suspension de leurs activités alors que marchés et lieux de culte sont ouverts au public. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Au Mali, très utilisé par les populations depuis la crise de 2021, avec la fermeture des structures de banques et caisses, le service Orange Monnaie à Niafunke attise aujourd'hui des arnaqueurs qui profitent de la naïveté et de l'ignorance de certains clients, alors que les cas d'arnaque et d'escroquerie se multiplient. Des radios locales sont utilisées pour sensibiliser tous les utilisateurs de ce service. Reportage de Sekou Maïga.
Le phénomène d'arnaque à travers Orange Monnaie devient de plus en plus source de conflits dans le secteur de Niafunke. Rien que la semaine de la fête de Tabaski, agents d'Orange Monnaie et clients, beaucoup se sont transportés devant la gendarmerie pour abus de confiance, escroquerie ou arnaque. Au cours de notre investigation, nous nous sommes rendus compte qu'ils sont tous souvent des victimes. Et certains aussi d'entre eux sont des escrocs ou naïfs. Diarafa Diallo, agent d'Orange Monnaie très respecté ici à Niafunke.
Vraiment, ça, c'est un grand problème dont nous, Orange Monnaie, on fait face. Parce que on ne peut pas faire Orange Monnaie, ça veut dire que sans connaître même, ça veut dire que les droits même du travail, parce que on nous a formés à des principes qui sont là. Et vraiment, les agents doivent respecter ces principes-là pour bien travailler. Tu ne peux pas faire Orange Monnaie, ça veut dire qu'on te dit, un client vient, on te donne un numéro, faire un dépôt de tel montant, tu fais le dépôt, ça veut dire sans avoir l'argent. Ça, ce n'est pas normal. Quand tu vois ces trucs-là, tonton, ça veut dire que les agents même de Orange Monnaie, c'est des arnaqueurs. On se dit ça, hein. Franchement, quand on se dit la vérité, c'est des gens qui travaillent, ça veut dire que sur leur puce personnelle. Parce qu'ils ne travaillent pas avec leur flotte. C'est des gens qui travaillent sur leur puce personnelle. Ils essayent, ça veut dire, de couvrir. Parce que c'est des gens même qui sont en train de trafiquer Orange Monnaie eux-mêmes.
Donc, à votre avis, c'est un réseau de certains agents qui ont l'expérience de transfert, mais qui utilisent également d'autres personnes avec d'autres numéros?
Bien sûr. Ça veut dire que la majeure partie de ces gens, ça veut dire que c'est des gens qui travaillent avec deux puces. Ils travaillent et avec des puces personnelles, avec aussi leur flotte qu'on appelle les puces Orange Monnaie. Parce que quand tu travailles avec ton puce Orange Monnaie, ça veut dire que tu ne peux pas faire certains trucs. Tu ne peux pas le faire. Parce que sur ta puce personnelle, tu ne peux pas avoir 1 million ou bien 600 000 là-dessus. C'est à partir des puces personnelles qu'on utilise ces UV là qu'on appelle Orange Monnaie, les UV. Et beaucoup d'UV, ils reçoivent beaucoup d'UV, ça c'est leur propre intérêt. C'est à partir de ça qu'ils font ces genres de dépôts. Et il faut voir aussi, c'est la majeure partie de ces arnaqueurs, des gens qui connaissent même les clients. Ils font des recherches sur les clients et on revient, on t'arnaque. On sait qu'il y a une puce-cause qui existe actuellement. La majeure partie des gens, c'est des gens qui sont des cupides. Les gens sont gourmands. Les gens veulent avoir l'argent facile. On ne peut pas avoir l'argent sans travailler.
Donc, à votre avis, ce qui arrive en ce moment donc, à certains clients de Orange Monnaie et à même certains agents qui font Orange Monnaie à Niafunke, c'est la cupidité aussi une des raisons?
Bien sûr, les agents sont cupides et que les clients aussi sont cupides. C'est comme ça. Parce qu'on t'appelle, cherche des informations. Avant de faire le dépôt, quelqu'un t'appelle, tu ne connais même pas la personne. Comment tu acceptes directement la demande de la personne? Ça, là, ce n'est pas normal, ça, c'est de la cupidité et du gourmandise. Parce que ce n'est pas seulement au niveau des clients. Hein. Les agents Orange Monnaie, il faut qu'on se dise la vérité, de cesser d'arnaquer les gens. Sinon, on va dire leur nom, hein, de ne pas amener une autre rébellion sur les gens.
VOA Niafunke, Sekou Maïga.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.